Merci d'écouter nos podcasts. Vous pouvez écouter notre émission en entier les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 13h à la radio. À la demande sur notre site web ou via notre application mobile SBS Your Language. Pour en savoir plus, allez sur sbs.com.au/french.
A le plaisir aujourd'hui d'avoir Christophe Bouchard, vous êtes le directeur de l'AEFE, vous êtes ici. Amel Bond, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous un petit peu l'AEFE, on en a quand même pas mal parlé sur les antennes de Radio SBS, mais tout le monde n'a pas forcément des enfants qui sont scolarisés ici. Donc l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est ça?
Donc c'est une agence gouvernementale qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et qui gère, qui anime le réseau des écoles françaises à l'étranger, donc 495 écoles. Qui ont comme point commun de fournir une scolarité selon le programme français, où que ce soit. Et nous avons donc 5 écoles de ce genre, de cette catégorie en Australie.
D'accord. Le modèle australien est différent de ce qu'on peut trouver dans un modèle canadien ou un modèle en Asie. C'est vraiment un modèle particulier ou en fait on trouve certaines similitudes quand même?
Alors, je dirais que quels que soient les pays, il y a le point commun, c'est de suivre le programme français, puisque c'est ça la condition de ce qu'on appelle l'homologation, qui est donc la certification que l'école suit les programmes français, de la maternelle jusqu'au bac, et prépare aux examens français. Donc ça, c'est le point commun. Après, il y a des tas de variantes, parce qu'il faut s'adapter partout aux circonstances, aux pays, aux réglementations des pays, et puis à la demande des familles. Et l'une des caractéristiques ici en Australie, c'est, je dirais, l'imbrication, l'intégration entre nos programmes français et puis les programmes et les écoles australiennes, puisque, en fait, dans la plupart des cas, ici à Melbourne, c'était le cas à Canberra où j'étais hier, les sections françaises sont intégrées dans des écoles publiques australiennes.
Donc ça, c'est un modèle qui est bien spécifique ici. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être moins d'expats qu'il peut y avoir aux États-Unis et les gens peut-être un petit peu plus intégrés sur un projet de vie à plus long terme, on peut dire ça?
Il peut y avoir effectivement ce point-là. Je dirais que ça dépend un peu des circonstances, ça dépend de la façon dont les écoles sont nées. Dans certains cas, comme à Sydney, il y a une école française qui naît par elle-même et qui est indépendante, si je puis dire. Et puis dans d'autres cas, il y a effectivement pas forcément la masse critique pour justifier un établissement à lui seul. Et puis il peut y avoir aussi tout simplement le fait que les autorités locales et des écoles publiques locales trouvent un intérêt à ouvrir des sections internationales. Pour s'ouvrir à un nouveau public, pour remonter aussi leur niveau. C'est un peu le cas de l'école ici à Melbourne. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment des circonstances. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a quelques endroits où on trouve un peu le même cas de figure de sections françaises qui sont intégrées dans des écoles publiques américaines. C'est le cas en Floride, par exemple. C'est pas le cas le plus courant, mais c'est donc, je trouve, l'intérêt de nos écoles ici en Australie.
Vous êtes en place à l'EFE dans votre position depuis un peu plus d'un an, je crois. L'EFE, c'est un petit peu plus ancien que ça. Il y a un historique qui est beaucoup plus long que ça.
Oui. Alors l'agence elle-même, elle a été créée en 1990. Avant, il y avait bien sûr déjà des écoles, des lycées français à l'étranger, mais qui étaient gérées pour une partie d'entre eux directement par le ministère des Affaires étrangères, par le ministère de la Coopération, quand il y avait un ministère de la Coopération dans les pays d'Afrique francophone, sans compter aussi notamment les écoles qui sont gérées ou animées par la mission laïque française. Et en 1990, le gouvernement a décidé de créer cette agence pour en fait donc donner plus d'autonomie, donner plus d'efficacité à la gestion de l'agence. Donc je dirais l'historique, selon ce que l'on prend comme date de départ, l'agence c'est donc 90, ça fait 27 ans maintenant. La plupart des écoles, je dirais, sont nées dans le courant du 20e siècle. Mais si vous cherchez la plus vieille école française à l'étranger, c'est le lycée français de Berlin, qui lui a été créé par les Huguenots au 16e siècle. Donc c'est une vieille histoire.
Comme on les aime d'ailleurs avec la France.
Voilà, tout à fait. Et en Australie, là, on est évidemment sur un terrain où les écoles sont beaucoup plus récentes, mais c'est en même temps l'un des pays où, je dirais, on a les perspectives les opportunités de croissance les plus importantes. On a des nouvelles écoles, celle que j'ai visitée aujourd'hui, Auburn High School, qui a été homologuée l'année dernière. On a d'autres écoles qui demandent leur homologation, par exemple à Brisbane. Il y a des projets à Adélaïde, notamment en liaison avec avec l'arrivée de familles françaises supplémentaires avec le contrat des sous-marins. Il y a des projets où il y a eu des projets à Perth. Donc on est vraiment dans un pays où on a beaucoup de perspectives. Il y a beaucoup de Français, comme vous le savez, qui arrivent. Et puis une demande des Australiens qui ont envie d'une éducation bilingue, biculturelle.
Le fait que vous soyez dépendant du ministère des Affaires étrangères, ça peut paraître un peu bizarre. Vous n'êtes pas dépendant du ministère de l'Éducation. Il y a une raison pour ça. Et est-ce que ce n'est pas à la fois une barrière ou alors est-ce que ça vous donne une certaine liberté ?
La logique, c'est que dans notre organisation française, toute l'action extérieure de l'État est pilotée et coordonnée par le ministère des Affaires étrangères. Donc de la même façon que les instituts français sont sous la tutelle également des Affaires étrangères. Donc l'agence est sous la tutelle des Affaires étrangères. Comme je le disais, avant que l'agence n'existe, les lycées étaient directement gérés par le ministère des Affaires étrangères ou par le ministère de la Coopération, parce que ça fait vraiment partie de l'action extérieure de la France. Alors, bien sûr, on travaille étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que la plupart de nos enseignants, bien sûr, sont des titulaires de l'Éducation nationale. Donc on a besoin de l'Éducation nationale pour ces mises à disposition d'enseignants. Et puis aussi, je parlais de l'homologation, donc ça c'est un processus qui est piloté par le ministère de l'Éducation nationale et les Affaires étrangères, parce qu'évidemment la matière pédagogique est plus du ressort de l'Éducation nationale. Mais vraiment le principe de base, c'est que à partir du moment où on est à l'étranger, et ça a été encore renforcé dans les dernières années quand le ministère des Affaires étrangères est devenu le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, c'est vraiment l'idée que toute l'action extérieure de l'État soit piloté, géré, coordonné par un seul ministère, ce qui pour nous est plus efficace parce que je dirais que ce soit qu'on parle des écoles françaises, de l'Institut français ici en Australie, des alliances françaises ou de l'action économique, de Business France, tout ça c'est l'action extérieure de la France, l'influence qui passe par la culture, qui passe par la langue, qui passe par l'économie et ça nous paraît, alors il y a d'autres pays qui peuvent choisir d'autres solutions mais ça nous paraît, je dirais, logique que ce soit piloté par les Affaires étrangères, encore une fois en bonne intelligence évidemment, en travail quotidien avec l'Éducation nationale.
D'accord. Alors parlons un petit peu des enfants. Vous avez pu rencontrer les enfants des écoles de Melbourne aujourd'hui, Canberra hier. C'est important pour vous aussi d'aller au contact.
Oui, bien sûr, parce que d'abord c'est toujours sympathique de voir les enfants et puis de prendre conscience au travers des enfants de à quoi on sert finalement, de à quoi servent ces écoles. Et quand vous entendez des enfants alors plus ou moins jeunes, maternelle, primaire ou secondaire, qui chantent la Marseillaise par exemple, comme aujourd'hui. À Melbourne et après avoir chanté l'hymne australien, bien sûr, alors que la plupart d'entre eux sont australiens et ne parlaient pas un mot de français quand le premier jour où ils sont arrivés à l'école. Et puis quand vous parlez avec eux, quand vous voyez que justement ils parlent français et qu'ils connaissent l'histoire de France, la géographie, tout en parlant évidemment parfaitement anglais, une troisième langue, c'est là qu'on prend conscience encore une fois, de la raison d'être, de l'intérêt de ces écoles. Et puis aussi, on voit bien sûr les différences d'un établissement à l'autre, parce qu'on a des écoles qui sont très différentes par leur public. On a des écoles où l'essentiel du public est français, d'autres où l'essentiel du public est national et donc n'est pas francophone au départ. Et donc on voit aussi, bien sûr, en parlant avec les enseignants, en parlant avec les équipes des lycées, les points sur lesquels il faut encore faire des progrès, parce que il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à faire évoluer. Mais parler avec les élèves et puis y compris répondre à leurs questions, puisque c'est un peu c'est un thème important dans nos écoles, parmi d'autres, l'éducation aux médias, comment utiliser les médias, comment pouvoir agir, comment apprendre à être journaliste. Je pense que c'est pas vous qui me direz le contraire. On voit comme ça des jeunes enfants qui, de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui apprennent d'abord à construire une interview, poser des questions. Et là aussi, on voit que, ma foi, ils sont très, ils se débrouillent plutôt bien, ils sont très habiles, ils passent du français à l'anglais sans aucun problème. Donc c'est toujours très réconfortant de voir discuter avec les élèves quand on visite un établissement scolaire.
Ils l'ont travaillé cette Marseillaise, je peux vous le dire.
Oui, mais c'est vrai que c'est toujours émouvant de les entendre chanter l'hymne national et puis bien sûr l'hymne du pays.
Si on parle plus spécifiquement de l'Australie, est-ce que vous avez eu le temps de peut-être d'analyser comment l'éducation est faite ici, parce que c'est une approche qui est à la fois complètement différente, mais quand on voit le projet de l'EFM, par exemple, ou des autres écoles ici, ultra complémentaire avec un modèle français. Donc les enfants ici ont le meilleur des deux mondes, presque, on pourrait dire.
Oui, ben je crois que c'est très intéressant. Alors justement parce que ici nos écoles ou nos sections françaises sont intégrées dans des écoles australiennes. Donc déjà on voit au quotidien et puis nos enseignants français voient au quotidien comment ça se passe dans une école australienne parce qu'ils interagissent avec avec leurs collègues australiens. Et ce qui est important, c'est que les élèves puissent aussi se mélanger, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'un côté la section française et de l'autre côté la section australienne et qu'ils puissent faire des choses ensemble. Et puis ça permet effectivement à nos enseignants de voir comment fonctionne un autre système, j'espère aussi dans l'autre sens et notamment on me disait que les collègues australiens avaient découvert le rôle des élèves, des délégués des élèves, puisque dans le système français les élèves élisent leurs délégués dans des organes, dans des conseils, des comités de la vie lycéenne. Apparemment ça n'existe pas ici. Le rôle des parents d'élèves aussi est différent, donc bien sûr, enfin c'est une évidence de dire ça, chacun à apprendre de l'autre, et je crois que c'est important pour nous. Il y a en France, comme dans les autres pays, comme j'imagine en Australie, des débats en permanence sur l'éducation, sur comment la faire évoluer. Et je crois que on a quand même compris maintenant en France qu'il fallait. On est très content très fier de ce qui fait un peu la spécificité de l'éducation à la française. Mais il ne s'agit pas de regarder ça dans un cadre fermé et de prendre des expériences à l'étranger. Alors ça peut passer par la coopération éducative classique, je dirais, mais ça passe, je trouve, encore plus par des enseignants qui vont être pendant plusieurs années ici à Melbourne, à Canberra, à Sydney, au contact avec une école australienne, avec des collègues australiens, et puis qui ensuite vont peut-être changer de pays ou rentrer en France et faire profiter tout le monde de ces expériences qu'ils auront acquises à l'étranger. Donc, et c'est clair que bon, il y a des choses qui sont les mêmes, et heureusement d'ailleurs, dans les programmes, il n'y a pas une différence complète entre les programmes, entre le curriculum français et le curriculum australien, mais dans les façons d'agir, par exemple là, dans l'école Auburn qu'on a visité, le fait d'avoir des salles ouvertes, sans porte, ça c'est quelque chose qui en France est très rare, ou même qui n'existe pas. On ferme la porte de la classe, alors qu'ici on est ouvert. Vous voyez, c'est des petites choses, mais je crois qu'on profite toujours de voir comment ça se passe chez les voisins.
Il y a la technologie aussi, hein, les tableaux multimédia, etc., qui sont assez, qui sont utilisés assez souvent ici dans les écoles.
Oui, alors ça, pour le coup, on a ça dans nos écoles françaises à l'étranger, et même en France, ça se développe aussi. On est peut-être parti avec un peu de retard, mais c'est clair que c'est maintenant complètement intégré dans les outils de pédagogie.
Pour conclure, le défi de la EFE, enfin les défis, il n'y a sûrement pas qu'un, de la EFE en 2017-2018, c'est quoi, c'est où ?
Alors, c'est, je dirais, continuer à avoir ce réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui est assez unique en son genre, par sa taille, et puis par le fait d'être piloté par le gouvernement et par l'État, pour à la fois donner une certaine unité et puis aussi donner une aide financière, puisque c'est un système qui est cofinancé par l'État français et par les parents d'élèves, bien sûr. Donc le défi, c'est continuer à mener ce réseau, le développer dans tous les endroits où on a une demande forte, soit parce que la communauté française augmente, soit parce qu'il y a une demande forte de la part des pays étrangers, et tout ça en maintenant la qualité, qui se mesure par la réussite aux examens, notamment le bac, qui se mesure, je dirais, encore plus par la qualité des études supérieures que les élèves peuvent faire après, et puis qui se mesure quand on voit encore une fois ces élèves qui réussissent très bien dans la vie, et faire ça évidemment dans le contexte budgétaire que l'on connaît, où on a un certain nombre de contraintes, et puisse aussi faire vivre, je dirais, parfois ce miracle quotidien qui consiste à faire fonctionner une école française à l'étranger, et d'être en quelque part en permanence dans la quadrature du cercle entre le système français qui doit s'adapter à des systèmes étrangers, comme on l'a dit, qui sont différents. Et on y arrive, mais c'est jamais simple. Je dirais, ça ne va pas de soi. Et donc, bon an, mal an, je dirais, c'est ça. Parce qu'on a chaque année 1%, 2% d'élèves en plus. On en est à 340 000 élèves cette année, en 2016-2017, avec plusieurs écoles qui ouvrent chaque année. Et donc voilà. Et puis évidemment, toujours s'adapter aux réformes de l'éducation qui ont lieu en France et aux réformes que nous devons mener spécifiquement à l'étranger, parce que à l'étranger on est face à des défis particuliers, notamment sur la pratique des langues étrangères, qui est plus développée dans les écoles, dans nos écoles à l'étranger qu'en France. Et donc ça, je dirais, c'est déjà des beaux défis pour les années à venir.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench